On a parlé en disant qu'il y a une standardisation au niveau du service, mais est-ce qu'il y a une standardisation au niveau des méthodes? Est-ce que vous avez une seule manière d'intervenir, une modélisation, on va dire, qui serait unique, qui s'appliquerait à tous les cas de figure? Alors, cette question, je dois l'avouer, est un peu rhétorique, parce que j'entreaperçois déjà la réponse qui est fondée sur la base aussi de notre expérience chez Total, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à standardiser les méthodes, puisque chaque cas de figure est bien spécifique. Comment faites-vous justement pour traiter tous les cas de figure? Que standardisez-vous? Marie?
Alors effectivement, je mentirais en disant qu'on a réussi à tout standardiser, mais en fait, je ne suis pas sûre que ce soit nécessairement quelque chose qui soit intéressant non plus de tout standardiser, déjà parce que ce serait moins drôle au quotidien, donc on s'ennuierait un peu. Alors c'est vrai qu'on essaye de le faire, notamment dans le service que je présente ici, parce qu'on a beaucoup d'agents qui ne sont pas nécessairement des agents archivistes de profession, donc le fait de standardiser les choses et de mettre en place des procédures, c'est aussi un mode de formation pour ces agents-là, donc on a quand même cette tendance-là, et puis ça peut faire gagner du temps. Mais on standardise beaucoup en termes de communication vers les services, c'est-à-dire qu'on fait des fiches pratiques. Fiches pratiques qui se concluent souvent par « contactez-nous ». Mais ça leur permet quand même de faire déjà une première analyse, donc on va avoir des petits questionnaires, notamment je parlais tout à l'heure sur la numérisation de substitution, donc avec, je ne sais pas si je devrais le dire, mais on a un questionnaire un peu type glamour, vous savez, des trucs d'été avec des petites couleurs. Et donc quand on arrive à la fin avec un nombre d'étoiles, à ce moment-là, ça veut dire qu'on fait ça, un nombre de petits cœurs, on fait ça. C'est très joli, c'est très coloré. Donc, donc on a fait ce genre de fiches pratiques qui, elles, sont standardisées, et puis, mais qui sont une première réflexion pour les services, pour que d'une certaine manière ils aient une notion un peu de ce qu'on va aborder quand on va les rencontrer. Donc c'est le genre de choses qu'on diffuse en réunion, donc qu'on a essayé de standardiser un peu. Pour le reste, après, une fois qu'on les rencontre, c'est vrai que là on improvise un peu. Alors on n'improvise pas la méthode projet, mais on improvise un peu parce que souvent le service va nous contacter et on se rend compte que l'objet de la réunion qu'il a mis au départ n'est pas exactement ce que lui ce dont lui veut parler dans le fond, qu'on ne s'est pas nécessairement bien compris, ou que donc du coup on réadapte en permanence. Pareil, je vais vous donner un exemple. On a en ce moment une grande question sur la dématérialisation des élections professionnelles. Donc qui se monte complètement. Donc on va avoir des élections professionnelles entièrement électroniques. Donc quand on a rencontré le service qui s'en occupe, la première fois, le service des relations sociales, l'idée qu'il nous avait présentée, c'était de faire un connecteur entre l'outil qui va servir à dématérialiser les élections et notre système d'archivage électronique, de manière à ce qu'il y ait un versement automatique. Et en fait, quand on a commencé à analyser avec eux, donc on était parti sur ça, comment faire éventuellement un profil de versement, et au fur et à mesure de la discussion avec eux, on s'est rendu compte que sortirait beaucoup de données de cet outil, mais qu'en fait, en termes d'archivage, ils ont besoin de deux choses. Un, de conserver l'ensemble de l'outil pour pouvoir rejouer l'élection, et ça, notre système d'archivage, il n'est pas capable de le faire. On ne va pas prendre l'ensemble de l'outil avec ses configurations. Donc ça, on ne peut pas le faire, donc on ne le fera pas. Et en revanche, ils gardent un ou deux documents probants, mais qui là ne sont plus de la donnée, qui sont des documents. Donc ils vont sortir des registres. Donc finalement, ce qu'on va prendre en termes d'archivage, ça n'a rien à voir avec l'application, qui pourrait être n'importe quelle application, mais ils vont nous verser deux documents PDF. Donc en fait, en cours d'analyse, on a vu qu'on a complètement reconfiguré le projet, qui au départ était éventuellement un projet à long terme, avec des versements automatisés, avec un connecteur à développer, et puis finalement, on s'est rendu compte que le besoin, il n'était pas du tout là, qu'on avait au bout du compte deux documents bureautiques qui allaient être versés manuellement à l'issue des élections. Donc voilà, on reconfigure un peu en permanence. Et puis le dernier point sur la standardisation, alors je ne sais pas si c'est peut-être un petit peu à la marge, mais c'est qu'on forme de plus en plus des correspondants archivés. Donc on essaye de standardiser en fait nos modes de relation avec nos correspondants archives et de leur fournir des outils pour qu'eux puissent faire ces premières analyses. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on standardise un petit peu. C'est en tant que correspondant archive, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les questions que je dois me poser? Qu'est-ce que je dois remonter aux archivistes? Donc ça, c'est le genre de choses qu'on essaye de faire, mais c'est vraiment la première étape de tous les projets. C'est la seule chose qu'on arrive à peu près à standardiser.
C'est-à-dire, quelque part, le discours, en fait. C'est le discours qui est standardisé. C'est le...
Oui. Alors, le discours, et j'ai envie de dire le débroussaillage aussi.
D'accord.
Alors, débroussaillage, le terme est peut-être... mais la toute première étape, c'est-à-dire vraiment de savoir dans quoi est-ce que je me lance. C'est ça qu'on essaye de standardiser.
D'accord.
Effectivement.
Merci. Sandra.
Donc en termes de standardisation chez nous, alors c'était imposé en fait, dès qu'on a mis en place l'appel d'offres, on allait vers, comme condition pour sélectionner aussi nos prestataires, on avait demandé une application et un système qui puisse être industrialisé. Donc chez nous c'est important, puisque l'idée c'est d'éviter de refaire, d'autant plus que le SE qu'on a mis en place, en fait, c'est le SE Corporate. Donc c'est le seul en fait, outil d'archivage électronique, on a réussi à imposer ça dans la politique archive, ce qui fait qu'on est censé prendre toutes les applications. Donc du coup, d'un point de vue technique, ils ont essayé de le mettre en place, on s'aperçoit que finalement, là-dessus, chaque application est différente. Voilà. Donc du coup, même si on arrive à avoir des parties, des briques qui sont standardisées, on n'arrive pas du tout à dire, bon, voilà, moi j'ai tel système, je te le connecte, oui, je te donne le connecteur, vas-y. Par contre, d'un point de vue fonctionnel, alors que ce n'était pas forcément une exigence en cahier des charges pour les archivistes ou même pour le prestataire qui va répondre, on a réussi, comme Marine l'a expliqué, à mettre en place des procédures, ce débroussaillage assez facilement. En revanche, on s'est aperçu très vite qu'avec les prospects que nous avons eus en interne, il y a des principes qu'on a dû faire sauter rapidement. Typiquement, si je prends un exemple, nous avons plein de barrages partout, notamment un en Guyane, le barrage de Petit Sault, qui est venu récemment en nous disant bon, voilà, moi j'ai énormément de documents numériques sur toutes les études environnementales, est-ce que je peux les archiver électroniquement? Je lui dis où sont les originaux? Il dit en Guyane. Je lui dis bon, on va conserver les originaux, puisque notre territoire aussi d'action, c'est les docteurs, donc du coup, nos chargés d'études vont aussi les docteurs. Donc du coup, il me dit oui, sauf qu'en ce moment, on doit refaire des études environnementales, il me faut ce fond-là. Bon, donc il numérise, et puis après, je lui dis bon, ça fait quand même des linéaires, il m'annonce le cas, je fais ok, mais je ne vais pas fêter un port 30 heures pour rapatrier l'original. Hein. Donc voilà, donc du coup, un critère qui paraît en fait, au départ, on peut dire très raisonnable, très rationnel et logique, dans certaines situations, comme Clotilde l'expliquait tout à l'heure, on est obligé de s'adapter aussi. Et donc, même si on standardise les procédures, nos critères d'éligibilité, nos déploiements, il y aura forcément l'exception qui confirme la règle et qu'on devra évaluer. Et comme le disait Marine, c'est sympa.
Sur le sujet
nous, c'est comme la standard. Enfin, je peux simplement dire que nous, chez nous, c'est standardisé à outrance, si je puis dire. et on n'en demeure pas, parce que sinon, on ne pourra pas y arriver. Donc, c'est surtout les méthodes de travail qui sont très bien standardisées chez nous, avec des processus bien définis, avec des délivrables, avec qu'on présente notamment au métier, à l'informatique, etc. Donc c'est très standardisé.
D'accord. Alors on s'aperçoit à travers vos réponses respectives que finalement la standardisation elle est plutôt du côté de l'humain aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois dans le discours, dans les méthodes de travail, dans l'organisation qu'on va mettre en place, et que techniquement parlant, eh bien, il n'y a pas de miracle. Chaque cas de figure est unique, il faut l'analyser, l'évaluer, s'adapter soit à la technique, soit au contexte, quand on parle aussi de contraintes locales, dans le cas de pays étrangers ou des DOM-TOM. Et donc on fait au fur et à mesure ce qui est le plus pragmatique finalement. Pour conclure, c'est vrai que nous avons l'habitude souvent de présenter tout ce qui fonctionne. Et donc je voudrais poser une question aussi. Avez-vous rencontré des difficultés, des obstacles qui vous ont fait faire marche arrière sur le terrain des projets qui ne sont pas passés du tout comme prévu, des choses qui ont été abandonnées. Et je vais donner un exemple aussi chez nous, parce qu'il n'y a pas de raison. Je parle des choses positives chez Total, donc je vais aussi parler des choses que nous avons abandonnées. Nous avions imaginé à un moment utiliser des systèmes de type coffre-fort numérique. Ça ne nous a pas convaincus. On a fait une preuve de concept d'abord pour vérifier le recours à ce type d'outils. Et on s'est rendu compte d'une part que le modèle économique des coffres-forts est assez particulier, et le coût élevé, et que le recours à ce type de technique est plutôt intéressant dans le cas de documents très sériels, ce qui n'est pas le cas dans un grand groupe comme Total, où il y a beaucoup de documents spécifiques au projet sur le terrain. Donc, est-ce que vous avez des cas concrets à nous présenter de projets qui ne se sont pas du tout passés comme prévu pour illustrer cette question?
Alors, je suis un peu gênée. Non, parce que je n'ai pas vraiment, on l'avait discuté un peu avant, d'expérience au MEF, je n'ai pas vraiment d'exemple de cas qu'on ait abandonné ou qui ne soit pas passé comme prévu. En revanche, donc c'est ce qu'on avait un petit peu abordé, on le voit à la pratique et en général, quand on lance un projet d'archivage électronique, on a tendance à penser à la collecte, à la préservation, donc à la prise en charge en fait, des documents. Et donc, comme on disait, le Arcade, l'outil d'archivage électronique qui est déployé à Bercy, est déployé depuis 2008. Donc là, on commence à avoir quand même pas mal de demandes de communication de documents électroniques depuis qu'on stocke. Et on se rend compte que quelque chose qui n'est pas nécessairement le plus réfléchi au moment où on lance un projet, c'est la communication. Donc là, c'est une des limites qu'on rencontre un petit peu sur notre outil. C'est une difficulté, en fait, à faire une recherche et une communication par dossier. C'est-à-dire que dans l'électronique, alors ça fait un petit moment que je suis là, donc on a quand même beaucoup parlé à un moment de toute cette... c'était le miracle de la granularité, je ne sais pas si... pour ceux qui ont beaucoup fréquenté les colloques sur l'archivage électronique. Avec cette idée que finalement, contrairement à ce qui se passait dans l'univers papier, on allait pouvoir descendre directement aux documents unitaires et qu'on aurait une richesse d'informations démultipliée. Et en fait, c'est vrai. Et donc beaucoup d'outils ont été conçus sur cette notion-là. Et on finit par se rendre compte qu'on a un peu oublié aussi que parfois, ben, c'est pas d'un document qu'on a besoin, mais c'est d'un dossier. Et de retrouver un contexte plus large. Et ça, c'est quelque chose, donc c'est des petites difficultés qu'on peut rencontrer à la recherche dans notre outil. Donc c'est pas quelque chose sur lequel on fait marche arrière. Mais on voit bien, donc c'est, j'ai presque envie de dire, c'est quelque chose qui aujourd'hui doit être, je pense, mieux réfléchi dans les futurs projets. C'est toute cette notion de bah, qu'est-ce qu'on fait une fois que tout est à l'intérieur et aller directement à un document. Déjà, la recherche, ça peut faire beaucoup de bruit, donc c'est une des difficultés qu'on peut rencontrer. Et puis, secondo, c'est qu'on peut perdre un peu de contexte quand on fait la recherche de ce type-là. Donc voilà, c'était une des petites réserves que je peux avoir sur notre fonctionnement actuel.
Merci. Oui, cette question de l'accès, nous n'avons pas centré la discussion autour de l'accès parce que la problématique de la table ronde, enfin de la journée d'études tout simplement, était plutôt orientée sur la question de la collecte, mais évidemment elle est aussi fondamentale. Merci d'en avoir parlé. C'est aussi une problématique chez Total, mais je dirais que c'est aussi plus largement inévitablement une question qui se pose dès lors que les outils de gestion des archives sont conçus d'abord pour administrer le cycle de vie de l'information et donc ont des métadonnées assez pauvres, il faut quand même l'admettre, en termes de contenu. Parce qu'à l'origine, quand on a conçu des systèmes de gestion d'archivage papier, déjà pour commencer, quand on a informatisé la gestion du papier, c'était pour administrer le cycle de vie et la logistique, et donc pour gérer un sort final et trouver un emplacement. Et beaucoup moins la question du contenu. Et on ne s'étonne pas aujourd'hui, nous, quand on... Ça nous embête, mais on ne s'étonne pas quand on fait des recherches parce qu'il y a une affaire, parce qu'on va fusionner avec une entité ou qu'on a vendu une telle autre et qu'on doit retrouver des actions en toute urgence et qu'on lance des recherches et que comme résultat, on trouve dossier jaune dossier vert, dossier bleu, véridique. Et donc, effectivement, c'est un obstacle aujourd'hui. Il y a une vraie réflexion à mener sur comment faire évoluer la manière dont on décrit les archives numériques, parce qu'on ne va pas se contenter uniquement d'administrer le sort final, étant donné qu'à la différence du papier, on va avoir accès au contenu directement. Et donc c'est une vraie question. Est-ce qu'elle se pose aussi chez Sanofi?
Eh bien, chez nous, nous avons aussi des difficultés, notamment pour la recherche. Et parce que c'est une fonction de notre SAE qui n'est pas très très bien développée. En fait, chez nous, la fonction de l'identification des archives, elle se fait, disons, par deux entités différentes. On a les producteurs d'archives et on a les archivistes. Les producteurs d'archives, eux, décrivent leurs fonds suivant leurs besoins, eux. Et nous, nous décrivons aussi d'un point de vue archivistique. Et malheureusement, l'outil de recherche est développé plus pour les producteurs d'archives parce que ce sont eux qui ont les finances et qui financent le projet. Et pour nous, l'outil n'est pas encore tout à fait développé. Donc là, on a
un vrai sujet
qui devait être traité cette année et qui a été déporté pour 2019 parce qu'on considère que c'est une problématique qui est beaucoup plus large.
Oui, tout à fait. Et justement, chez Total, Clotilde Rouquivigne l'a abordé ce matin, on s'intéresse à la data visualisation comme aussi une manière de réexploiter les données différemment, dans une toute autre logique qui n'est pas du tout celle du papier, qui ne pouvait en aucun cas être celle du papier, parce qu'à l'origine c'était vraiment gérer les gros volumes d'un point de vue logistique, hein, pouvoir aller retrouver dans la masse le dossier d'un point de vue logistique, et on se posait pas forcément la question de naviguer dans les dossiers, de la sérendipité finalement, de redécouvrir de l'information, et donc aujourd'hui il est certain, la première étape de mise en place d'un système d'archivage électronique, c'est la sécurisation, garantir l'intégrité, garantir l'authenticité des documents. Mais pour nous, la suite, c'est d'imaginer des nouvelles méthodes d'accès à l'information qui permettent aux différents métiers de naviguer dans les fonds et de redécouvrir même de l'information. Donc nous travaillons beaucoup sur sur la data visualisation. Sandra, je me tourne vers toi. Chez EDF, avez-vous abandonné des projets? Avez-vous rencontré d'autres limites sur le terrain?
Oui, ça serait mentir que de dire non. Des difficultés, on en a encore une fois plutôt techniques. On a des formats, on en parlait hier avec le CEA, des formats SolidWorks, des formats AutoCAD. AutoCAD c'est facile, SolidWorks c'est du 3D. Bon voilà, on arrive avec ce genre de données nativement numériques et dont il est essentiel d'assurer la conservation. Voilà, on est un petit peu gêné pour savoir qu'est-ce qu'on va adopter comme type de collecte. Alors il n'y a pas que aussi l'aspect technique, il y a aussi l'aspect archivistique. Effectivement, qu'est-ce qu'on va rechercher?